Bonjour, bienvenue à vous. Le maillot jaune est, vous le savez, indissociable du Tour de France. Eh bien en fait, c'est 100 ans avec une exposition au Musée National du Sport à Nice. Ensuite, nous allons tester des pâtes fabriquées avec des restes de céréales utilisées pour la bière. Et enfin, on s'intéresse à un vitrail qui va retrouver la ville de Troyes 120 ans après sa disparition. Mais avant tout cela, place à l'actu de ce lundi 25 mars. Bonjour Denis Farouf.
Bonjour Frédéric Letornier, bonjour à tous.
Le président chinois arrive à Paris après un passage sur la Côte d'Azur.
La Chine investit en Europe comme ailleurs d'ailleurs et l'Europe a du mal à avoir une position commune. Comment se comporter face aux géants chinois, Nicolas Ballu ?
Et surtout, comment s'entendre économiquement sans devenir dépendant politiquement ? C'est pas simple.
Les tests pour vérifier si une angine est d'origine virale ou bactérienne vont peut-être être bientôt remboursés. On ne les utilise pas assez, Valérie Barbe ?
Eh ben non, d'après le gouvernement, et même les médecins ne sont que 40% à utiliser ce fameux test.
Qui n'a pas pesté un jour en entrant dans des toilettes sales ?
Ça devient problématique quand c'est à l'école et que les enfants ne vont pas aux toilettes. On a un exemple, mais il y en a plusieurs.
Des artistes se mobilisent pour l'adoption d'une directive européenne qui doit défendre leurs œuvres diffusées sur Internet.
C'est Michel Fugain, un parmi d'autres, qui pousse un coup de gueule contre les géants du web.
France Islande ce soir, en éliminatoire de l'Euro de foot 2020.
On va entendre une Islandaise installée à Paris et qui y croit dur comme fer.
Bienvenue à tous dans Une heure en France.
Une heure en France, Frédéric Letornier, Denis Farouf sur France Bleu.
Et on commence avec le témoignage de celui qui a perdu son fils et deux petits-enfants il y a 7 ans lors des attentats de Toulouse.
Il est à la Cour spéciale d'assises de Paris pour suivre le procès en appel du frère de Mohamed Merah, Abdelkader Merah, condamné à 20 ans de prison en première instance. Samuel Sandler redoute cette nouvelle épreuve.
Beaucoup d'angoisse, parce que j'ai déjà assisté au premier procès, il y avait des scènes qui étaient insoutenables. D'abord j'ai découvert les derniers instants de mes enfants. D'une part, et d'autre part, j'ai vu la famille de l'assassin et sa mère en particulier, un véritable monstre. En fait, j'ai jamais eu de colère, c'est surtout l'angoisse d'à nouveau de revoir les témoins de cette scène et entendre à nouveau le déroulé des derniers instants de mes enfants. Je me sentirais coupable si je n'assistais pas à l'ensemble du procès, parce que c'est encore pour eux que j'y vais, parce que c'est encore les derniers moments où on va encore parler d'eux, toujours d'eux, et moi j'ai besoin de parler d'eux.
Est-ce que vous pensez qu'un jour vous pardonnerez ?
D'abord, c'est pas moi de pardonner, c'est à eux de pardonner, ce qu'ils ne font pas. Au contraire, il suffit d'écouter aussi bien le frère que la mère, ils sont très, très fiers du comportement de l'assassin. Donc je n'ai pas à demander pardon, donc je dois demander. En plus, ce serait trahir mes enfants. Là, il n'en est pas question.
Le père de Jonathan, le grand-père d'Arié, 5 ans, et de Gabriel, 3 ans, assassiné par Mohamed Merah, alors que débute le procès en appel de son frère Abdelkader Merah.
À Bergerac, on a découvert ce matin des dégradations sur le chantier de la mosquée en construction.
Une tête de cochon déposée sur le chantier, du sang jeté sur la façade, une enquête est ouverte. Le parquet, joint par France Bleu Périgord, rappelle qu'il s'agit d'un délit qui peut aller jusqu'à 7 ans de prison.
Après l'accueil sur la Côte d'Azur, le président chinois entame le volet officiel de sa visite en France.
Accueil à l'Arc de Triomphe par Emmanuel Macron en début d'après-midi, signature de contrats commerciaux avant la visite demain à l'Elysée d'Angela Merkel et de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Ça veut dire, Nicolas Ballu, que face à la Chine, il vaut mieux parler à plusieurs.
Oui, et il est assez rare qu'une visite bilatérale retienne à ce point l'attention de cette manière, c'est-à-dire pour son volet multilatéral. Parce que c'est donc finalement demain que les rencontres de demain qui vont attirer le plus les regards. Ça ne veut pas dire que France et Chine ne vont pas parler, coopération, grand contrat et géopolitique. Mais Emmanuel Macron veut remettre ces discussions dans une perspective européenne et il n'est pas le seul.
Tous les Européens s'inquiètent ?
Non, pas tous. Mais la Chine a aujourd'hui un programme de développement dans les secteurs technologiques et également de la sécurité alimentaire. Et les experts sinologues vous diront que beaucoup d'entreprises sont assez opaques et surtout liées au Parti communiste chinois ou à l'armée. Ils vous diront également que la Chine vient de décider de la fusion de l'expertise civile et militaire. C'est-à-dire que l'expertise technologique civile sera automatiquement transférée vers le militaire.
Là, on est loin des investissements en Europe.
Ben, pas tant que ça. Le symbole de cette fusion civile-militaire, c'est l'inquiétude et qui est l'inquiétude des Européens et Américains. C'est Huawei, le fleuron de la téléphonie 5G, soupçonné d'espionnage et qui vient s'implanter à Monaco.
Mais c'est un scénario un petit peu noir que vous nous proposez là, Nicolas.
Ben, incomplet, disons. Xi Jinping vient vendre son programme Les routes de la soie. C'est économique. Un investissement chinois dans les infrastructures, les routes ou les ports notamment. C'est du gagnant-gagnant, dit le président chinois, c'est une opportunité chinoise également de contrôle des routes d'approvisionnement. Alors la Chine veut investir en Europe, les Européens, eux, aimeraient avoir un accès surtout au marché chinois parce qu'il est plutôt fermé. C'est également, donc c'est une inquiétude économique, il y a également une inquiétude politique et ce qui pourrait passer avec les États-Unis ne passe pas avec la Chine communiste du 21e siècle.
Eh bien merci, merci pour tout Nicolas Ballu.
La semaine qui débute est celle où le Royaume-Uni aurait dû quitter l'Europe.
Ça ne sera pas le cas, Theresa May a réuni son gouvernement ce matin, on attend des nouvelles. La nouvelle date de sortie fixée, c'est le 12 avril, au plus tôt, à condition que le Parlement valide l'accord de divorce repoussé déjà deux fois.
On a tous en tête la campagne des antibiotiques, c'est pas automatique.
Le gouvernement envisage de rembourser les tests d'angine pour limiter la prise d'antibiotiques, c'est-à-dire éviter d'aller chez le médecin pour un simple mal de gorge. Tout le monde n'est pas d'accord, Valérie Barbe.
Ah bah c'est vrai que ça fait un peu tousser les médecins, hein, car si le gouvernement rembourse bien ses tests, on n'ira plus forcément consulter pour un simple mal de gorge. Il suffira d'aller à la pharmacie pour faire le test et savoir si on a une angine d'origine bactérienne ou virale, et si on a besoin ou pas d'antibiotiques, et donc de voir un médecin. Ce qui n'est le cas que si c'est bactérien. Et ce n'est pas le plus fréquent, hein. 80% des angines sont virales.
Mais alors qu'est-ce qui inquiète les médecins ?
Bah, qu'au faute d'un vrai diagnostic médical, on passe à côté de maladies graves. Une angine, même virale, peut entraîner des complications et même cacher autre chose, comme une autre maladie.
Et les médecins, ils font ce test en cabinet ?
Bah, pas encore beaucoup, hein. En 2017, à peine 40% des médecins ont utilisé ce fameux test.
Et pourquoi ? Parce qu'il est compliqué à faire ?
Non, c'est tout simple, hein. On passe un petit bâtonnet sur les amygdales, ça ne fait pas mal. Et en moins de 10 minutes, on sait si c'est viral ou si c'est bactérien. Ça ne coûte pas cher, environ 10 euros. Et d'après le gouvernement, ça permettrait d'économiser 20 millions d'euros d'antibiotiques inutiles. Et aussi d'en prendre moins, hein, bien sûr. Les angines, c'est quand même 10% des prescriptions d'antibiotiques.
Mais vous n'avez pas un peu mal à la gorge, par hasard ?
Légèrement, mais j'espère bien que ce n'est pas une angine.
Merci Valérie Barbe.
Allez, on passe par l'école ce midi, et pas pour parler des réformes en cours cette fois, mais de l'état des toilettes dans certains établissements.
Oui, des toilettes, car il est impensable que des élèves se retiennent toute la journée parce que les toilettes sont sales ou en mauvais état. C'est le cas à l'école Alphonse Daudet de Clermont-l'Hérault, à l'ouest de Montpellier. Fabrice Hawkins.
Des dizaines d'enfants attendent devant la porte de l'établissement. Ils ont déjeuné chez eux et en ont profité pour aller aux toilettes. Parce qu'aller au petit coin à l'école, c'est toujours un mauvais souvenir.
Moi, je dis que c'est très sale et c'est pas bien. J'aimerais qu'ils soient nettoyés pour qu'on aille aux toilettes.
Louis ne va plus aux toilettes de l'école. Les élèves affirment qu'il y a des excréments sur les murs et que les serrures des portes ne fonctionnent pas toujours. Nadia est en CE1.
Déjà, ça sent pas bon. Et après, quand on rentre pour aller faire pipi, quand on s'assoit, c'est tout cassé, c'est dégueu.
Juste à côté, Lauriane et Jeanne ne peuvent pas toujours rentrer à la maison à midi. Conséquence, elles ont mal au ventre toute la journée.
Nous, on n'a pas envie d'y aller. Donc du coup, moi, je me retiens jusqu'à son sort.
Se retenir d'aller aux toilettes, ça peut avoir des conséquences sur l'apprentissage, d'après les médecins. Marie, maman de deux garçons, est révoltée.
Ça peut être super dangereux au niveau santé pour eux, quand même. Une infection urinaire, parce qu'ils se retiennent toute la journée, c'est quand même assez dramatique à cet âge-là. Et c'est pas normal, quoi. Surtout quand on nous dit qu'ils peuvent rien faire parce que, soi-disant, il n'y a pas de budget, quoi.
Des travaux sont prévus l'été prochain, mais avec l'urgence de la situation, le maire de Clermont-l'Hérault va peut-être les avancer.
Eh bien, le voilà, le maire de Clermont-l'Hérault, Salvador Ruiz.
Bien évidemment, je suis au courant. C'est quelque chose qui me préoccupe énormément. Mais vous voyez, je suis obligé d'après, voilà, j'ai une enveloppe. Il s'avère que peut-être j'avais pas toutes les informations au niveau de la dégradation. Cet été, elles seront refaites, voilà. Pendant les vacances, elles seront refaites. Dans 3 mois, ça sera réglé.
Et pendant ces 3 mois, comment font les enfants qui se retiennent et qui ne peuvent pas aller aux toilettes ?
Bien évidemment, je vais trouver une solution la plus urgente. Si vraiment les enfants ne peuvent pas aller aux toilettes, il va falloir trouver une solution peut-être beaucoup plus rapide. Parce que quand on se retient toute la journée, c'est pas très bon pour la santé, je pense. Si après, ça peut amener certaines complications, voilà. Et là-dessus, on interviendra peut-être plus rapidement à ce moment-là.
Eh bien, on espère aussi qu'on n'attendra pas l'été. Fabrice Hawkins à l'école et avec le maire de Clermont-l'Hérault.
On a découvert les chiffres définitifs du Téléthon qui s'est déroulé en décembre. On s'était arrêté à 69 millions, mais les dons ont continué d'affluer dans les semaines suivantes pour arriver à près de 89 millions.
C'est-à-dire 3 millions et quelques de moins que l'année précédente, ce qui est un moindre mal vu le contexte des manifestations du Téléthon contrariées par des manifs de gilets jaunes.
13h10 sur France Bleu, la suite du Nord en France, ce sera un détour par le Stade de France via l'Islande, France-Islande ce soir, après la victoire sur la Moldavie il y a 3 jours. Et puis les droits d'auteur, c'est demain qu'une directive européenne doit réformer les droits d'auteur des artistes avec les géants du net, Google, Apple ou Facebook.
Ils sont 171 à avoir signé une tribune dans le Journal du Dimanche hier pour mettre fin, disent-ils, à un scandale, être diffusé sans être payé. Jean-Jacques Goldman fait partie des signataires, Louane, David Guetta et encore Françoise Nyssen, l'ancienne ministre de la Culture. Et c'est Michel Fugain qui hausse le ton.
Ce sont des grands brigands, ce sont des gangsters, l'air de rien. C'est-à-dire qu'ils veulent tout prendre, mettre à la disposition du monde entier, sans jamais rien payer. Ça ne peut pas marcher. Ça me paraît tout à fait normal qu'on défende le droit d'auteur. Quelle est l'alternative au droit d'auteur? C'est le copyright à l'américaine. Et là, dans ce cas-là, les créateurs sont quasiment dépossédés de leurs droits. Il faut se battre pour que ça n'arrive pas jusque chez nous. C'est une société qui est en question, une société qui a choisi d'être libérale, mais il faut mettre des limites à ce libéralisme. La destination même de la création, c'est pour des peuples, c'est pour brasser l'imaginaire des peuples. Si la création, quelle qu'elle soit, est dirigée par des gens ou sélectionnée par l'argent, eh ben, les peuples vont avoir un imaginaire qui va peu à peu s'appauvrir, et ça n'est bien pour personne.
La bataille est engagée entre les artistes et les géants d'Internet par la voix ce midi de Michel Fugain.
Qui c'est qui est très gentil ?
Très gentil.
Qui c'est qui est très méchant ?
Très méchant.
Qui a tous les premiers prix ?
Très gentil.
Qui roupille au dernier rang ?
Très méchant.
Qui fait des économies ?
Argent. Les méchants.
Qui c'est qui vend des fusils?
Les gentils.
Qui c'est qui se retrouve devant?
Les méchants.
Les gentils, les méchants, c'était la musique du film « Je sais rien, mais je dirais tout » de Pierre Richard en 1973.
Les Bleus remettent le couvert 3 jours après avoir battu facilement la Moldavie en match de qualification pour l'Euro de football.
Et c'est contre l'Islande, on connaît les Bleus par cœur. Alors voyons les Islandais, une Islandaise en l'occurrence, qui prépare le match à sa façon, en région parisienne, là où elle habite, Guillaume Fariol.
Bienvenue chez Christine Jonsdottir. Avec le bon accent, ça donne.
Jonsdottir.
Elle sera ce soir au Stade de France. Et le stress est déjà là.
J'angoisse à mort là, depuis qu'on a vu les matchs. Islande a joué contre Andorra. Ils ont réussi à mettre 2 buts, mais c'était quand même un peu long. Mais on est des battants.
Des battants et des supporters pas comme les autres, en osmose avec leur équipe.
Ça, c'est parce qu'on est tout petit. On est 330 000. En Islande, c'est facile d'être vraiment soudé, un groupe. Tout ce qui est compétition comme ça, international, on est tous à fond.
Christine attend particulièrement le célèbre clapping ce soir, cet applaudissement en rythme avec les supporters. Il est devenu le symbole de l'équipe islandaise depuis l'Euro 2016.
Il y a un tambour que j'ai pas là, mais... Le tempo fait boum boum. Et puis il y a ce temps d'attente très important là. Boum boum. Boum boum. Boum boum. Boum boum. Boum boum.
Ambiance garantie donc ce soir au Stade de France. Allez, peut-être un dernier message avant le match.
Island mun sigra á morgun og það er engin spurning.
Traduction, ce soir c'est l'Islande qui va gagner, il n'y a pas de débat.
Christine Jonsdottir avec Guillaume Fariol.
Vous n'avez pas bien prononcé, vous.
Vous voulez réécouter?
Oui, oui.
Jonsdottir.
Alors?
Moi. Allez, France-Islande, c'est ce soir à 20h45 au Stade de France. On attend le clapping. Et d'ici là, on va aller à Nice dans quelques minutes visiter l'exposition des 100 ans du maillot jaune.
Oui, c'est à Nice que le Tour de France 2020 va débuter de manière inhabituelle. C'est le patron du Tour, Christian Prudhomme, qui le rappelle.
Pour la première fois depuis 40 ans, pour un grand départ du Tour de France, dès le deuxième jour, les coureurs du Tour de France devront affronter de vrais cols, aller au-delà de 1500 voire 1700 mètres avec la Colmiane et le fameux col de Turini, qui était au parcours de Paris-Nice, qui est aussi une légende du sport avec évidemment le rallye Monte-Carlo. Notre rêve avec la ville de Nice, c'était de voir côte à côte, épaule contre épaule, dès le premier week-end, ceux qui peut-être gagneront le Tour de France.
Alors, le départ du Tour à Nice, on est d'accord Frédéric, c'est en 2020.
Oui.
En juillet prochain, le départ, ce sera Bruxelles.
Oui, dans 5 minutes, donc, on fête les 100 ans du maillot jaune à Nice.
Oui, avant de découvrir des nouilles pirates qui répondent au drôle de nom de Ramène tes drèches.
C'est après la météo.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr.